rebelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Kasai Oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'avoir choisi Radio Kapi, la fréquence de la paix qui vous propose ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs ici en direct dans ce studio. La Cour pénale internationale CPI a commémoré le lundi 17 juillet le 25 ans de l'adoption du statut de Rome, texte créateur de la justice pénale internationale. Et selon Patrick Tchiboui, responsable de la communication à la CPI à Kinshasa, que nous recevons dans ce studio, son institution a prononcé 10 condamnations et 4 acquittements en 25 ans. Et pour vous, auditeurs, que pensez-vous du travail de la CPI et que proposez-vous pour l'avenir? Vous êtes nombreux à vouloir commenter ces sujets. On se retrouve dans le débat qui se tient sur la page Facebook des paroles aux auditeurs également. Jean-Claude Ntiala assure la mise en onde de ce magazine. Kepiro et la Menji, j'ai le réel plaisir de vous présenter. Fidèles auditeurs, bienvenue à toutes et à tous.
Propose à partir du lundi 17 juillet sur sa bande FM et sur ses plateformes digitales des dossiers, reportages, interviews, portraits, magazines et émissions spéciales aux couleurs des 9e Jeux de la Francophonie qui auront lieu à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Radio Kapi, pour que les 9e Jeux de la Francophonie ne soient pas qu'un simple jeu.
Monsieur Patrick Tchiboui, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le responsable de la communication à la Cour pénale internationale ici à Kinshasa. 25 ans, c'est beaucoup ou c'est peu?
D'abord, il faut préciser que lorsqu'on parle de 25 ans, il s'agit de 25 ans depuis l'adoption du statut de Rome, le 17 juillet 1998. En réalité, la Cour est devenue opérationnelle le 1er juillet 2002. Parce que, après l'adoption du statut de Rome, il a fallu que ce statut puisse entrer en vigueur. Et le mécanisme qui était prévu par le statut de Rome a fait en sorte que, finalement, ce statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Parce qu'il fallait 60 ratifications. Et le statut avait prévu qu'il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le 60e jour après le dépôt du 60e instrument de ratification. Et c'est ainsi que le statut de Rome est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Alors, donc, vous avez donc là deux dates. 17 juillet 1998, qui est la date d'adoption du statut de Rome, et 1er juillet 2002, qui est la date d'entrée en vigueur du statut de Rome. En fait, c'est à partir de cette date que le statut de Rome, que la Cour pénale internationale est devenue opérationnelle. Alors, lorsque maintenant vous partez du 1er juillet 2002, vous allez réaliser que la première affaire qui a été portée devant la Cour pénale internationale avait été portée en décembre 2003, c'était l'Ouganda. Et la RDC, le deuxième État qui a déféré la situation à la Cour pénale internationale, c'était en avril 2004. Donc, vous voyez très bien déjà que si on doit analyser l'action de la Cour pénale internationale, faire parler d'un bilan, on ne pourrait pas partir comme point de départ
le 98,
voilà. Mais on prend l'entrée en vigueur, mais encore fallait-il attendre qu'il y ait des États qui puissent déférer la situation, ou que le procureur ouvre les enquêtes de sa propre initiative, ou encore que le Conseil de sécurité le saisisse. Mais dans le cas d'espèce, la première situation qui a été déférée, le premier État qui a saisi la Cour pénale internationale, comme je l'ai dit, c'était en 2003. Alors, les enquêtes ont commencé, vous avez plusieurs États qui ont déféré la situation. Aujourd'hui, nous avons 17 enquêtes qui ont été ouvertes devant la Cour pénale internationale qui concernent des pays africains, mais également des pays en dehors de l'Afrique, des enquêtes en Ouganda, qui était le premier État à déférer une situation. Le deuxième État, c'était la RDC, qui avait déféré la situation. Des enquêtes au Darfour, au Soudan, des enquêtes en Centrafrique, des enquêtes au Kenya, en Libye, en Côte d'Ivoire, au Mali, en Géorgie, au Burundi, au Bangladesh, Myanmar, en Afghanistan, en Palestine, aux Philippines, au Venezuela et dernièrement en Ukraine où nous avons eu deux mandats d'arrêt, notamment un mandat d'arrêt contre le chef d'État en fonction Poutine de la Russie. Donc aujourd'hui nous avons, si on doit parler d'un bilan de la Cour pénale internationale, nous avons aujourd'hui 10 condamnations qui ont été prononcées par la Cour pénale internationale et nous avons eu également 4 acquittements parce que ce qu'il faut toujours garder à l'esprit, c'est que la Cour était une institution judiciaire et en tant qu'institution judiciaire, toutes les personnes qui sont pour ce vues devant la cour sont présumées innocentes. Mmh. Et donc, pour que la cour, pour que les juges prononcent la culpabilité d'un accusé, il y a des conditions qui sont définies par le statut, notamment le fait que les juges soient convaincus de la culpabilité de l'accusé au-delà de tout doute raisonnable. S'il n'y a pas cette conviction, malgré les éléments de preuve présentés par le procureur, les juges n'auront pas d'autre choix que de prononcer l'acquittement. Donc nous avons eu 10 condamnations et 4 acquittements qui ont été prononcés par la Cour pénale internationale.
Alors si on peut d'abord faire un pas en arrière, il faudra quand même peut-être donner un bref aux auditeurs ce qui a milité vraiment à la création de la Cour pénale internationale. Est-ce qu'il y avait un besoin? Est-ce qu'il y avait une faiblesse pour que les gens se situent? Et puis on pourra avancer avec eux aussi sur ce qu'ils pensent du travail qui a été fait, ce qu'ils proposent pour l'avenir.
En fait, la Cour, elle a été créée à l'issue des discussions qui ont eu lieu à Rome du 15 juin 1998 au 17 juillet 1998. Mais en réalité, le besoin d'une juridiction pénale permanente ne date pas de 1998. C'est un besoin, un désir qui a été manifesté bien longtemps, mais qui a toujours été buté, notamment à des raisons liées à la souveraineté des États. Mais également au contexte de la guerre froide qu'il y avait à l'époque. C'est ainsi que nous avons eu, lorsqu'il y a eu des situations graves qui ont été commises dans certains États, dans certains pays, nous avons eu des tribunaux ad hoc, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, le tribunal pénal international pour le Rwanda, et bien avant cela d'ailleurs, nous avons eu, à la suite de la première guerre mondiale, nous avons eu les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg, ainsi que les tribunaux militaires de Tokyo, qui ont été créés. Mais c'était des juridictions temporaires. Qui avait été créé pour répondre à un besoin de justice qui s'est créé à un moment donné de l'histoire de l'humanité. Et une fois qu'ils ont eu à rendre justice, à prononcer des décisions, qui ont eu à mettre en place les procès, ces juridictions n'ont plus existé. Mais il y a toujours eu cette nécessité de la part de la communauté internationale, de la société civile, d'avoir quelque chose, une juridiction permanente. Et c'est ça qui a milité finalement en 98, en 98. C'était, l'environnement était propice, semblait être propice pour le permettre, et ça marchait. Finalement, les États ont créé la Cour pénale internationale. Mais j'aimerais rappeler que ça fait un mois de discussion. Et pendant ces un mois de discussion, c'était houleux. On a même failli sortir des discussions à Rome sans avoir eu à mettre en place une juridiction pénale, sans avoir eu à adopter un instrument juridique pour créer la Cour pénale internationale. Mmh. Donc il a fallu une lutte, et dans cette lutte de discussion, de débat, il faut saluer l'apport de la société civile qui était présente également à Rome. C'est vrai que ce sont les États qui ont créé la Cour pénale internationale, mais les ONG étaient présentes à Rome. Ils ont fait un lobbying extraordinaire auprès des États, manager auprès des États sous des dispositions spécifiques pour finalement pousser les États à s'entendre et à adopter le statut de Rome mettant en place la Cour pénale internationale.
Et quand on regarde les 10 condamnations, les 4 acquittements, est-ce qu'on peut le répartir sur le plan géographique? Parce qu'il y a cette impréhension, quand je vois même les auditeurs sur la page Facebook des Paroles aux auditeurs, qui estiment que cette Cour, elle est créée pour les Africains et le Congo qui a eu vraiment une part très importante dans la collaboration avec la Cour pénale internationale. Comment sont dispatchés ces condamnations et ces acquittements?
D'abord, il faut rappeler que dans l'action de la Cour pénale internationale, la majorité des situations que nous avons devant la Cour, et notamment les premières situations qui ont donné lieu à des procès, ce sont des situations qui ont été déférées par des États africains. Je vous l'ai dit, le premier État qui a déféré la situation, c'est l'Ouganda. Le deuxième État qui a déféré la situation, c'est la RDC. Et vous allez remarquer que la Centrafrique qui a saisi la Cour. Le Mali, c'est le Mali qui a saisi la Cour pénale internationale. C'est le cas également de la Côte d'Ivoire qui a eu à faire une déclaration de compétence demandant à la Cour d'ouvrir des enquêtes. Donc, c'est des États africains qui ont eu à déférer, à demander au procureur de la Cour pénale internationale de pouvoir ouvrir des enquêtes pour le crimes commis sur leur territoire. Donc déjà, à partir de ce postulat, on ne peut pas dire que la Cour s'acharne contre les États africains si des États africains membres de la Cour pénale internationale ont usé des dispositions prévues par le statut qui leur permettent de pouvoir déférer une situation au procureur de la Cour pénale internationale. Et d'ailleurs, lorsqu'un État membre décide de saisir la Cour pénale internationale, je pense que ça devait être encouragé parce que c'est la manifestation de cet État de ne pas laisser impunis les crimes les plus graves. Cet État pourrait considérer que dans l'État actuel, il ne pourrait pas déclencher une action pénale par rapport à ces crimes et donc use des prérogatives prévues par le statut de Rome pour demander au procureur d'ouvrir des enquêtes. Donc c'est quelque chose qui devait être encouragé parce que la finalité c'est laquelle ? La finalité c'est que les crimes les plus graves ne puissent pas rester impunis. Donc là vous voyez très bien que ce sont les États africains qui ont déféré la situation, ce qui fait que lorsque vous voyez les affaires qui ont été ouvertes, ce sont des affaires qui concernent des États africains et pour lesquelles des décisions ont été rendues, condamnations, mais également acquittements. Mais nous avons déjà, comme je l'ai dit, des mandats d'arrêt, deux mandats d'arrêt qui ont été délivrés par le procureur de la CEPI dans la situation concernant l'Ukraine, qui portent sur des ressortissants russes, pour lesquels des mandats d'arrêt ont été délivrés et pour lesquels la Cour attend la coopération pour l'exécution de ces mandats d'arrêt.
Alors, quand on regarde la médiatisation, par exemple, du travail de la Cour, en RDC, elle était plus liée au fait qu'on avait assez, quand le procès s'est déroulé encore, il y a eu condamnation, et puis après, aujourd'hui, où en sommes-nous entre la Cour pénale et la République démocratique du Congo?
Alors, dans la situation en RDC, nous sommes dans une phase qui concerne les réparations. Parce que dans la situation en RDC, nous avions eu un acquittement, Matungu Djolo, qui était poursuivi devant la Cour pénale internationale et qui a été acquitté par les juges de la Cour pénale internationale. Et nous avons trois autres situations pour lesquelles nous sommes en phase de réparation. C'est trois autres affaires plutôt. C'est l'affaire Thomas Lubanga, c'est l'affaire Germain Katanga et c'est l'affaire Bosco Ntaganda. Tous ces trois étant condamnés par la Cour pénale internationale, les juges ont prononcé des ordonnances de réparation et nous sommes actuellement dans une phase où ces réparations sont en train d'être mises en œuvre par le biais du fonds profit des victimes parce que tous ces trois étant reconnus des personnes indigentes, les juges ont demandé au fonds profit des victimes de pouvoir agir, intervenir pour mettre en œuvre les ordonnances de réparation qui ont été rendues par les juges. Mais il faut aussi rappeler que le procureur de la Cour pénale internationale, lors de sa visite récemment ici en République démocratique du Congo, a eu à signer un mémorandum d'entente avec les autorités de la RDC. Mémorandum d'entente qui vise un seul objectif, la lutte contre l'impunité des crimes graves dans le cadre de la complémentarité qui est le principe fondamental du travail de la Cour pénale internationale.
Voilà. On va écouter les auditeurs hein, qui sont avec nous dans cette émission. Emine Amanda nous appelle de Bukavu dans la province du Sud Kivu. Junior Bonpon est ici à Kinshasa et Marie-Paul est à Kisangani. Emine Amanda, on est avec vous. Bonjour. Quel est votre point de vue autour de cette question?
Oui, bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour à tout le monde. C'est bon de créer, mais la meilleure chose, c'est d'évaluer les objectifs assignés pour la création de celles-là. La CPI, qui normalement devrait jouer un rôle régulateur sur les multiples conflits de grande envergure à travers le pays ou le monde, mais en ce temps ici, se transforme en bouclier de régimes de tristes mémoires que beaucoup de pays traversent. Tout en rappelant ici que les infractions poursuivies par cette structure d'appui à la justice internationale, dont je cite les crimes de guerre, crimes de génocide, les crimes contre l'humanité et crimes d'agression, le bilan de la CPI faisant état de 10 auteurs condamnés et 4 relâchés, vu les atrocités que nombreux pays connaissent aux yeux de cette structure, revenant au cas échéant de la République démocratique du Congo, mon pays, qui du jour au lendemain est victime de ces 4 infractions précité qui est la CPI poursuit et cette institution reste et le prend comme une lettre morte. À mon avis, la CPI devrait restructurer les choses en se basant des particularités de chaque pays tout en restructurant la mise en application de ces règles pour bien redistribuer la justice sociale afin d'établir la paix et l'égalité sociale. De ce qui est des particularités de la RDC, une chambre de justice transitionnelle, comme l'avait bien souligné et comme le déclare chaque jour le prix Nobel de la paix Denis Mukwege, serait impérieuse et urgente pour trouver la solution au conflit d'agression que la RDC traverse.
Merci beaucoup, Emine Mwanda. Vous estimez qu'il faille évaluer les objectifs et que dans la restructuration, la CPI tienne compte des particularités de chaque pays dans la collaboration, mais aussi pour la RDC, vous souhaitez la mise en place de la justice transitionnelle. Merci beaucoup, Emine. Junior Bompongo, vous êtes ici à Kinshasa. Merci d'être avec nous. Bonjour, Junior. Quel est votre point de vue?
Bonjour Radio Cap. La thématique du jour me donne l'envie de fournir une perspective générale sur le travail de la Cour pénale internationale et présenter d'emblée certaines propositions pour son avenir. D'abord, en notant que la création de la CPI en 2002 avait marqué une étape importante dans l'évolution de la justice pénale internationale. Son objectif principal est de poursuivre d'abord et de juger les individus responsables des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale, tels que les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, les génocides et les crimes d'agression. 25 ans après, le travail de la CPI est complexe, s'il faut le dire ainsi, et parfois même difficile. Je m'explique. D'une part, elle joue un rôle crucial en offrant un forum pour la justice dans les situations où les systèmes nationaux des États membres sont défaillants ou incapables de poursuivre les auteurs de ces crimes. D'autre part, elle est confrontée à des défis importants tels que l'obtention de la coopération des États membres, la collecte des preuves dans des zones de conflit et la mise en œuvre de ces décisions. En ce qui concerne l'avenir de la CPI, voici quelques propositions qui sont souvent discutées. 1. Le renforcement de la coopération internationale. Il est essentiel que les États membres de la CPI renforcent leur coopération avec la Cour en matière d'arrestation, de suspects, de collecte de preuves et d'exécution des condamnations. 2. L'élargissement de l'adhésion. Bien que la CPI compte à ce jour 123 États membres, il y reste des pays importants qui ne font pas partie de la Cour. Et je pense qu'une fois que l'élargissement des États membres serait levé, cela pourrait encourager davantage d'États à adhérer à la CPI et renforcerait aussi son autorité et son influence. Troisième perspective, l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience de la CPI. La CPI donc doit continuer à travailler sur l'amélioration de cette procédure et de son fonctionnement interne pour garantir des enquêtes et des procès justes, rapides et efficaces. Renforcement des mécanismes de responsabilisation. La CPI peut explorer des moyens de renforcer les mécanismes nationaux de responsabilisation et de soutenir les efforts des États pour poursuivre les crimes internationaux. Et cinquièmement, sensibilisation et communication de la CPI peut renforcer aussi ses efforts de sensibilisation et de communication pour mieux informer le public sur son travail, son rôle et son importance dans la lutte contre l'impunité. In fine, je dirais qu'il convient de noter que ces propositions ne sont pas exhaustives et que le futur de la CPI dépendra aussi des évolutions politiques, des décisions des États membres et des développements dans le domaine de la justice internationale.
Merci beaucoup, Junior. On va écouter Marie-Paul qui est à Kisangani revenir à notre invité pour commenter ses points de vue des auditeurs. Marie-Paul, merci d'être avec nous. Bonjour, on vous écoute.
Bonjour, c'est le journaliste et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Cap. La mise en œuvre et la ratification par les États des statuts de la Cour pénale internationale est une aubaine pour les États qui, du reste, étaient en dépourvu judiciaire total pour juger le crime grave. Odieux les crimes contre l'humanité qui étaient bien évidemment commis par les individus dont les instances judiciaires nationales n'avaient pas compétence de les juger. De ce fait, l'avènement bien évidemment de cette Cour pénale internationale a mis un terme dans le libertinage des individus à commettre le crime relevant de la compétence de cette juridiction internationale. Depuis 2002 jusqu'au 17 juillet 2023, cette juridiction a acquis l'âge des maturations. Mais le bilan des actions menées jusque-là est négatif et décevant pour les États membres en général et ceux de l'Afrique en particulier. Ce bilan négatif se justifie entre autres par la léthargie dans la saisine de la Cour par les ayants droit. Deuxièmement, la procédure élastique dans les instructions des dossiers soumis à la Cour. Et troisièmement, les arrestations arbitraires qui, du reste, ne font que sorder par des accoutumants en cascade. Et bien que la Cour pénale internationale soit comme tout tribunal qui peut instruire en charge ou en décharge, mais les quelques verdicts rendus par la Cour pénale internationale font interroger d'aucuns de la procédure faite. Et ce qui fait même que plusieurs pays montent au créneau pour sortir de cette Cour pénale internationale. Considérant ici, de mon point de vue, il y a lieu quand même que la Cour pénale internationale puisse bien évidemment redynamiser et refonder son mode de fonctionnement et en respectant bien évidemment le statut créé à cette cour-là, en fait que les objectifs soient en tête pour permettre que les États fassent confiance.
Merci beaucoup, Marie-Paul, Monsieur Patrick Tchibouy. Vous avez suivi les compatriotes qui sont revenus, hein. Vous avez noté avec moi quelques réactions, propositions, quelques impressions aussi, hein. Votre réaction par rapport à ça.
D'abord, un très grand merci aux auditeurs parce que une occasion comme celle-ci, c'est aussi une opportunité pour les uns et les autres de pouvoir s'exprimer, donner leur point de vue. Qui permettent à l'institution Cour pénale internationale de s'améliorer. C'est un élément important pour lequel on aimerait remercier les différents auditeurs. Il y a plusieurs éléments qui ont été soulevés, mais j'aimerais rappeler une des propos qui avait été prononcés par le feu professeur Chérif Bassouni, qui était le président du comité de rédaction à la conférence diplomatique portant création d'une cour criminelle internationale. Mm-hmm. Lorsque le statut de Rome a été adopté, le président du comité de rédaction avait dit ceci, la cour créée par le statut ne pourra pas traduire en justice tous les criminels, mais contribuera à prévenir d'autres conflits. Mm-hmm. Mais également, le nouveau procureur de la Cour pénale internationale a également a donné un point de vue intéressant qui vaut la peine d'être soulevé, un point de vue qu'il a relevé lors de sa visite ici en République du Congo, où il est conscient, et tout le monde est conscient, c'est ce qui ressort, tout le monde est conscient du fait que c'est vrai qu'il existe une juridiction pénale internationale qui est la Cour pénale internationale, mais c'est vrai aussi qu'il y a des atrocités qui continuent à se commettre. Et ça pousse les uns les autres à se poser la question de savoir finalement que fait la Cour pénale internationale. Et comme je l'ai dit, le feu professeur Chérif Bassouni avait déjà un peu lancé le couleur en faisant prendre conscience que c'est vrai qu'on a adopté le statut de Rome, mais il est clair que le statut de Rome ne pourra pas permettre de poursuivre tous les auteurs des crimes les plus graves. Ce ne sera pas possible. Mais selon lui, ça pourra permettre de prévenir d'autres conflits. Et le procureur a eu à dire ceci lors de sa visite. Son constat, c'est que pendant 20 ans, c'est ce que dit le procureur, nous avons travaillé d'une certaine manière et la réalité tout simplement que les crimes, les violences et les viols n'ont pas cessé. Nous ne pouvons pas continuer à faire la même chose en espérant des résultats différents. Il doit y avoir une réelle volonté et une détermination résolue de tous les partenaires de faire mieux. Nous devons impérativement œuvrer main dans la main avec des parties prenantes clés dans l'Union africaine et les organisations régionales et ou internationales afin d'avoir un impact qui sera ressenti par les victimes et par les populations qui subissent ces crimes graves. Donc c'est ce constat fait par le procureur qui a d'ailleurs motivé la signature d'un mémorandum d'entente entre le bureau du procureur et les autorités congolaises. Donc la réalité est telle que la Cour pénale internationale ne pourra pas poursuivre tout les auteurs des crimes les plus graves qui se commettent dans le monde, si je peux utiliser le terme ainsi. Ce n'est pas possible. Et même lorsque le procureur a ouvert des enquêtes dans un état donné, il faut mettre un peu le contexte de l'action de la Cour. Toutes les juridictions pénales qui ont existé avant la Cour pénale internationale ont agi après coup. Ça veut dire que les crimes ont été commis, la situation s'est stabilisée et ces juridictions ont commencé à poursuivre les auteurs des crimes les plus graves. Tribunal militaire international pour le Nuremberg, le TPIR ainsi que le TPI grec, ce sont des juridictions qui ont été créées après coup, après la commission des crimes. Maintenant, elles ont été mises en place pour poursuivre les auteurs de ces crimes les plus graves. Mm-hmm. Mais si vous regardez bien le contexte dans lequel travaille la Cour pénale internationale, dans beaucoup de situations, elle travaille alors que le conflit continue à se commettre et que des crimes continuent à se commettre. Mm-hmm. Donc, dans ce cas d'espèce, pour le secret de la Cour, ce n'est pas possible dans une situation, dans un pays donné où des enquêtes ont été ouvertes, que le procureur puisse poursuivre tous les auteurs de crimes. Il a ouvert une affaire, il poursuit X personnes. Mm-hmm. Pendant qu'il poursuit, la situation continue à se commettre, des crimes sont commis. Elle ne pourra pas, dans un état spécifique donné, poursuivre tous les auteurs de crimes qui se commettent. Je vous l'ai dit, nous avons 17 enquêtes qui ont été ouvertes par le bureau du procureur. Mmh. Nous n'avons qu'un seul bureau du procureur. Même en tant que personne ressource humaine, même en tant que personne ressource même matérielle financière, ce n'est pas possible que dans une situation donnée, que le bureau du procureur se focalise dans une situation donnée pour poursuivre tous les auteurs de crimes qui se commettraient dans ce pays. Donc à partir de là, on prend conscience que effectivement, il y a des limites qui se font dans l'action de la Cour pénale internationale, qui d'ailleurs est une juridiction complémentaire. Mmh. Et ces limites-là nous poussent et poussent les uns les autres. J'ai vu que beaucoup d'auditeurs ont parlé des chambres spécialisées qui devaient mmh. être instituées. Ça, c'est une réponse qui est faite sur le plan interne, qui ne relève pas du mandat de la Cour, mais qui entre dans le cadre de la lutte contre l'impunité. Donc, il faut effectivement qu'il y ait ce travail commun d'ensemble pour que les crimes les plus graves ne restent pas impunis, pour que les auteurs de crimes les plus graves ne restent pas impunis. C'est comme ça que, par exemple, pour la situation en RDC, au même moment où nous avons eu des affaires qui ont été ouvertes devant la Cour pour la situation en RDC, on a eu, notamment, des juridictions militaires congolaises qui ont continué à poursuivre des auteurs pour des crimes les plus graves, alors que la Cour avait, elle, aussi ouvert certaines affaires, mais ces juridictions, au même moment, ont continué à rejouer leur rôle en poursuivant des auteurs des crimes les plus graves, et ça devrait continue à se faire, et c'est comme ça que ça justifiait l'accord, cette signature de mérandum d'entente, dans lequel, lorsque vous le lisez, le bureau du procureur s'est disponibilisé à apporter sa coopération, son assistance aux autorités juridiques congolaises dans le cadre de la lutte contre l'impunité des crimes les plus graves. Un auditeur a relevé les différents défis, il a tout à fait raison, les défis liés
à la coopération. Par exemple avec les États,
C'est une réalité, parce qu'aujourd'hui, je vous l'ai dit, nous avons 40 mandats d'arrêt qui ont été délivrés, c'est vrai. Nous avons 9 citations comparaîtres qui ont été également délivrées, mais nous avons 16 suspects qui sont en fuite. Donc, ils n'ont pas encore été arrêtés et déférés à la Cour pénale internationale. Et comme la Cour n'a pas de police pour exécuter ces mandats d'arrêt, elle s'en remet à la coopération des États pour que ces 16 suspects qui sont en fuite puissent être déférés devant la Cour pénale internationale. Il a raison de relever l'intérêt qu'il y ait un plus grand nombre d'États qui puissent adhérer ou être membres de la Cour. Et ça, c'est vraiment un travail qui continue à se faire par les États, à l'Assemblée des États partis, pour pousser les autres États à pouvoir devenir membres de la Cour. Et je rappelle que dans les 123 États aujourd'hui qui sont membres de la Cour pénale internationale, la représentation géographique la plus nombreuse en nombre d'États, c'est l'Afrique. Mm-hmm. L'Afrique comprend 33 États. Parmi les 123 États, nous avons 33 États membres qui sont des pays africains, qui fait que la représentation géographique Afrique est la plus représentée au niveau de la Cour pénale internationale.
Voilà, merci. On va écouter Maître Patrick Odia qui est à Lubumbashi, Siméon Kamouissi est à Goma, Amos Bissimo est à Bukavu. Maître Patrick Odia, merci de nous avoir rejoint. Bonjour, votre point de vue, Maître Patrick.
Bonjour Pierrot, bonjour à l'invité, bonjour à la radio Okapi et à tous les auditeurs de cette radio. Un enfant de 25 ans, pour certains, il est déjà papa. Pour d'autres, il est déjà marié. Pour d'autres, il est déjà mature, capable de prendre ses décisions de manière réfléchie. Alors, est-ce le cas pour la CPI, 25 ans après? Si dans certains aspects, oui, un bilan satisfaisant, mais dans d'autres également, il n'y en a pas. Il n'y a pas satisfaction. Quel est le rôle de la CPI? Le rôle préventif d'abord, Disons-nous la vérité que dans ces rôles, dans cet aspect, il y a une réussite totale. Dès lors que beaucoup de personnes aujourd'hui craignent de commettre les crimes internationaux par peur d'être poursuivies par la CPI, sachant la procédure longue, sachant sa rigueur dans la répression et dans la procédure, et beaucoup de personnes ont crainte aujourd'hui de pouvoir commettre les exactions relevant de la compétence de la CPI. Ça, c'est un. Deux, les rôles répressifs, c'est là où il y a à boire et à manger. Nous constatons tout simplement, et c'est désolant, qu'il y a une répression sélective. Pourquoi seulement la plupart des Africains qui sont déférés devant cette cour, alors que les mêmes crimes sont commis également sur les territoires européens, sur les territoires asiatiques, sur les territoires américains, pourquoi seulement les Africains qui sont déférés, notamment je reconnais qu'il y a certains sujets européens qui ont été déférés devant cette cour, mais les pourcentages, c'est toujours les Africains. D'où cela, cette répression sélective a créé de la méfiance dans les chefs des Africains. Et nous avons proposé également, parce que dû à cette méfiance, nous avons proposé qu'il y ait une cour pénale africaine. Au lieu d'éviter qu'on soit toujours déféré devant cette cour qui n'est pas indépendante, de manière judiciaire, de manière également financière, et cela a pour conséquence la méfiance. Et nous avons proposé la création d'une cour pénale africaine. À défaut de cette création, il faudrait à la CPI d'organiser des séminaires de communication, il faudrait également qu'elle puisse renforcer, accélérer un peu la procédure d'arrestation, parce que dès lors que vous avez arrêté quelqu'un, et après 10 ans, 15 ans, vous les relâchez, vous l'acquittez, voyez-vous ce que ça peut créer également. D'où cette méfiance pourrait être un défi à relever devant la CPI.
Merci beaucoup, Maître Patrick. Au-delà du fait que, du côté de la dissuasion, vous estimez que beaucoup de choses ont été faites aujourd'hui, mais il faudra encore améliorer en termes de collaboration, en termes de compétences, responsabilités. Mais comme l'invité le disait tout à l'heure, ce sont les pays africains qui ont saisi la cour. Et si les Africains sont partis à la cour, c'est parce que l'Afrique a appelé la cour. Voilà. Mais dans l'imaginaire, ça donne l'impression d'une cour qui est créée pour faire souffrir les Africains, alors que ce sont les Africains qui ont cherché la cour parce qu'ils n'étaient pas en mesure d'organiser des procès pour ces crimes-là. Siméon Kamouissi, vous nous appelez de Goma. Bonjour. On vous écoute, Siméon.
Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour également aux auditeurs de la radio Okapi. La Cour pénale internationale, qui est la première juridiction pénale internationale permanente créée pour contribuer à mettre fin à l'impunité des auteurs des crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale, à savoir le crime de guerre, crime de génocide, des crimes contre l'humanité et les crimes d'agression. Messieurs les journalistes, nous sommes allés savoir que la RDC, ou soit la Cour pénale internationale, ne donne pas plus ou ne fournit pas d'efforts de ce que la population s'attendait de cette cour. Monsieur le journaliste, on se demande, cette cour pénale internationale, c'est seulement pour les Africains ou comment? Parce que nous voyons souvent les exactions ou soit les efforts que cette cour pénale internationale fournit, c'est seulement pour les Africains. Mais on se demande, c'est pour seulement les Africains ou même pour, c'est dans le monde, mais elle s'implique souvent des Africains. On n'a jamais vu ou on n'a jamais attendu la Cour pénale internationale faire même une simple interpellation aux autorités européennes, américaines ou je dirais même asiatiques. C'est seulement ici qu'on a vu le cas de Poutine, de Vladimir Poutine. Ça, c'est une décision politique que la Cour pénale internationale a émis et nous disons que ça sera aussi sans impact. Mais la Cour pénale internationale doit donner le meilleur d'elle-même. Pourquoi nous disons le meilleur d'elle-même? Doit donner la justice au monde, doit faire tout son mieux, pourvu que la justice puisse régner dans ce monde, parce que c'est dans ses attentements, monsieur le journaliste. La Cour pénale internationale doit donner aux Africains, doit donner à la population les goûts de s'adhérer, les goûts de suivre cette Cour pénale internationale qui ne fournit pas le meilleur d'elle-même. La Cour pénale internationale ne fournit pas le meilleur d'elle-même. Les choses qu'on attendait de cette Cour, ce ne sont pas les choses là que la Cour nous fournisse. La Cour est là pour faire leurs exactions. Avec tout ce qui se passe en RDC, monsieur le journaliste, il y a des crimes graves, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, les crimes d'agression. Mais la Cour pénale internationale ferme les yeux, ne dit mot. On ne sait pas si cette Cour pénale internationale va faire quoi ou soit attendre faire quoi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Siméon. Vous estimez que pour la RDC, les atrocités continuent. Il y a beaucoup de choses qui se font encore, mais le travail de la Cour n'est pas à la hauteur des crimes qui sont commis, que ce soit à RDC ou dans d'autres régions du monde. C'est ce qui inquiétude, ce que tu as présenté, en souhaitant vraiment que la Cour aille au-delà. Il y a beaucoup de choses qui se font, beaucoup de crimes, et qu'elle soit vraiment permanente, et comme ça, elle va, ça va donner crédit auprès de la population de faire confiance à la Cour. Et on va écouter Amos Bissimwa qui est à Bukavu, et notre invité, Monsieur Patrick Tibou, il va réagir. Amos, merci d'être avec nous, bonjour, on vous écoute.
Je salue tous les auditeurs de la radio Okapi, mais aussi les invités présents au studio. 25 ans après sa création, dire que la CPI n'a prononcé que 10 condamnations et 4 acquittements, je pense à mon avis que c'est un échec puissant. Parce qu'on ne comprend pas, au vu des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre contre l'humanité auxquels nous assistons, des crimes économiques auxquels nous assistons à travers le monde, chaque jour qui passe, on ne comprend pas comment on peut nous dire que la CPI n'a prononcé que 10 condamnations et 4 acquittements dans 25 ans. Ce qui est grave, beaucoup de gens pensent que la CPI aurait été créée uniquement contre les Africains, mais pas pour les Européens. Pas pour les Européens, pourtant, les mêmes crimes s'effectuent en Europe. Mais on constate avec beaucoup de regrets que la CPI ne s'intéresse qu'aux questions qui se passent en Afrique, et pas toutes les questions. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent qu'il y aurait une manipulation derrière la CPI, et qu'il y a des dirigeants intouchables, il y a des hommes intouchables en dépit des crimes qu'ils commettent. Ils sont intouchables. Ils sont intouchables, on se dit finalement on est où. On a vu Jean-Pierre Bemba être interpellé, tout simplement parce que on a dit que c'est lui qui était derrière ses troupes. Il n'a jamais été en Centrafrique, mais il a été condamné, il a été à la CPI. Mais des crimes qui se commettent chaque jour en RDC, nous connaissons ceux qui sont derrière. Kagame a toujours été cité, le président du Rwanda, qui c'est lui qui est derrière le M23. L'Ouganda MMA, avec les ADF et autres. Mais on ne voit jamais cette communauté, cette cour intervenir ou interpeller ces gens qui ont toujours été cités, que ce sont eux qui seraient derrière tout ce que nous vivons en RDC comme crime. Et c'est là que les gens ne comprennent absolument rien. Moi, je pense que si du moins, dans 25 ans, la Cour peut avoir prononcé 10 condamnations et 4 acquittements, alors on constate, et beaucoup de gens pensent qu'il y a une mauvaise volonté de la part de cette Cour. Et c'est pourquoi beaucoup de gens d'ailleurs disent qu'on doit revoir les textes qui régissent cette Cour. Dans le cas contraire, je pense que cette Cour ne fait rien tel que les gens l'attendez. Merci.
Merci beaucoup, Amos Bissimwa. Il faudra passer à la vitesse supérieure. On devait avoir d'ailleurs beaucoup de dossiers, beaucoup de condamnations au regard des crimes qui se commettent à travers le monde, à RTC particulièrement. Patrick Tchiboui, encore les compatriotes sont venus. Est-ce qu'il y a-t-il aujourd'hui les souhaits des discussions sur la restructuration, sur la longueur des procédures, comment contraindre les États à pouvoir coopérer avec la Cour? Voilà autant de toutes ces questions que les gens se posent, et ils finissent par dire en 25 ans, on aurait aimé avoir beaucoup plus de condamnations au regard des crimes qui se commettent non seulement dans notre pays, mais à travers le monde.
Merci encore à ces différents auditeurs. On comprend très bien les fortes attentes qu'il y a par rapport à l'action de la Cour pénale internationale. Toutes les questions qui sont soulevées, notamment les questions liées à la durée des procédures, notamment des questions liées à l'efficacité, l'efficience, ce sont des sujets qui sont continuellement en discussion au niveau de la Cour pénale internationale, que ça soit au niveau de l'Assemblée des États parties, en ce qui concerne l'aspect organisationnel et l'administration, parce que la Cour est indépendante dans le volet judiciaire, mais que ça soit également au niveau de la Cour elle-même, en son sein, au niveau des juges, notamment de la Cour. Et les juges se réunissent régulièrement en retraite annuelle, où ils discutent ensemble des questions liées au bon fonctionnement de l'institution judiciaire. Cour pénale internationale. Donc, ce sont des préoccupations qui font l'objet également des discussions au sein de l'institution Cour pénale internationale, afin d'améliorer son efficacité, son efficience, là où elle est appelée à s'améliorer en tant qu'institution. Mais il faut aussi relever beaucoup d'éléments que les uns les autres doivent comprendre sous l'institution judiciaire. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle a un certain nombre d'affaires qu'elle est en train de poursuivre. Elle ne pourra pas poursuivre tous les responsables des crimes. Mais l'action judiciaire, l'action que porte la Cour pénale internationale est un message fort qu'elle lance. Parce qu'aujourd'hui, pour ce qui est des crimes les plus graves, vous avez une institution permanente qui a notamment mandat de poursuivre qui que ce soit sans tenir compte de sa situation officielle. Aujourd'hui, vous avez l'institution Cour pénale internationale qui peut délivrer des mandats d'arrêt ou des citations à comparaître contre des chefs d'État en exercice en fonction. C'est le niveau politique le plus élevé, et par rapport à ce niveau politique le plus élevé, pour les crimes relevant de la compétence de la Cour, il n'y a pas de distinction, il n'y a pas de différenciation. Vous pouvez être poursuivi par la Cour pénale internationale. Et des exemples sont là, de ces chefs d'État en fonction qui ont fait l'objet de mandats d'arrêt ou de citations à comparaître délivrés par la Cour pénale internationale. Donc c'est un message fort que la Cour lance. Un peu une sorte de Damoclès, cette institution, parce que avec son caractère complémentaire, elle est appelée à jouer un rôle de second plan. Ça veut dire que lorsque les États n'ont pas la volonté ou n'ont pas la capacité, et les États qui sont soucieux de préserver leur souveraineté, si je peux utiliser le terme ainsi sur le plan judiciaire, sont poussés maintenant à modifier même leur législation interne. Aujourd'hui, si un État, dans son arsenal juridique, considère qu'un chef d'État, considère que un député ne peut pas être poursuivi à cause de ses immunités en droit interne, si cet État ne modifie pas sa constitution, sa législation, elle laisse ces personnes à la merci de la Cour pénale internationale. Et maintenant, les États qui veulent eux-mêmes poursuivre leurs ressortissants sont obligés de pouvoir, les États membres qui ratifient le statut, sont obligés de pouvoir changer leur législation interne afin de rendre les juridictions nationales compétentes pour poursuivre ces personnes. Sinon, si vous ne le faites pas, s'ils sont poursuivis par des crimes, vous ne pourrez pas dire à la Cour, c'est notre chef d'État, il a des immunités, vous ne pouvez pas le poursuivre. La Cour va vous dire que le statut de Rome me dit que moi, pour ces crimes, je peux vous poursuivre. Donc c'est un message fort qui est lancé par la Cour pénale internationale. Mais également, aujourd'hui, je vous ai dit que nous avons 33 États qui sont membres, africains qui sont membres de la Cour pénale internationale. Les enquêtes portent sur 9 États. Donc ça veut dire, aujourd'hui, c'est 9 États sur les 33, 9 États africains sur lesquels vous avez des enquêtes ouvertes par la Cour pénale internationale. Et sur ce 9, la grande majorité, ce sont ces États africains, comme on l'a dit, qui ont eux-mêmes saisi. Nous n'avons que deux situations, la Libye et le Soudan, où c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies qui a déféré la situation. Mais pour tous les autres États, donc pour les 7 États africains pour lesquels il y a des enquêtes devant la Cour pénale internationale, ce sont ces États africains eux-mêmes qui ont consenti, accepté que le procureur puisse ouvrir ses enquêtes. Mais maintenant, pour les autres États, si un État, s'il y a des crimes graves qui sont commis dans un État africain, membre, ou un État européen, ou un État asiatique, membre de la Cour, il y a des crimes graves qui se seraient commis, mais si cet État poursuit lui-même les auteurs de ces crimes, la Cour n'interviendrait pas parce qu'elle est complémentaire. Donc c'est cette réflexion que l'on doit aussi avoir à l'esprit. Il ne suffit pas de dire qu'il y a un crime grave qui serait commis dans un État donné. Il faut se poser la question, est-ce que cet État ne poursuit-il pas ces crimes, ces ressortissants ou les crimes commis sur son territoire? S'il le fait, la Cour ne serait pas compétente. Il faut encore se poser d'autres questions. Lorsqu'on voit des crimes qui se commettent un peu dans plusieurs parties du monde, est-ce qu'il s'agit exactement des crimes relevant de la compétence de la Cour? Les violations graves des droits de l'homme ne sont pas forcément des crimes relevant de la compétence de la Cour. Il faut encore se rassurer que ces éléments entrent dans la définition du crime de génocide, ou de crime de guerre, ou de crime contre l'humanité, de crime d'agression. Donc s'il y a des violations graves qui se commettent, mais qui n'entrent pas dans la catégorisation de ces crimes, la Cour ne sera pas compétente. Et si même ces crimes se sont commis, il faut se poser la question, ils sont commis où ? Est-ce que c'est un État parti au statut de Rome? Qui a commis le crime? Est-ce que c'est le ressortissant d'un État parti au statut de Rome? C'est autant de questions juridiques qu'il faut se poser avant de faire un constat, une conclusion sur l'action de la Cour pénale internationale. Mais il est vrai qu'il y a des fortes attentes, et ça c'est tout à fait normal que ces attentes par rapport à l'action judiciaire de la Cour pénale internationale. Et pour la situation en RDC, il faut rappeler que récemment, la RDC a de nouveau saisi le bureau du procureur de la Cour pénale internationale pour lui demander d'ouvrir des enquêtes. Le procureur a répondu, il y a un communiqué de presse qui avait été publié où le procureur a annoncé son intention de pouvoir examiner la possibilité, s'il y a nécessité d'ouvrir cette possibilité d'ouvrir un examen préliminaire. Et nous attendons la décision du procureur de la Cour pénale internationale par rapport à cette nouvelle saisine qui a été faite par les autorités de la RDC. Nous attendons la suite que va donner le procureur par rapport à cette nouvelle saisine qui a été récemment intentée par les autorités de la RDC devant la Cour pénale internationale.
Voilà, on va écouter les deux derniers auditeurs de cette émission, François Okundi qui est à Chikapa et Laurent Mignon qui est à Kananga. François, merci d'être avec nous. Bonjour, on vous écoute.
À mon humble avis, nous devons considérer la Cour pénale internationale comme une institution d'appui à la démocratie dans le monde. Une institution d'appui à la démocratie, accès à la justice, de bonne gouvernance. Mais aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que la Cour pénale internationale est faite pour le chef de l'État africain. Peut-être qu'il ne souscrit pas à la vision de l'Occident. Non, non. Qui peut me dire, même si l'auditeur, l'intervenant qui est là-bas, l'invité, qui peut me dire quel est le chef de l'État là européen, américain, océanien, asiatique, qui a été déjà interpellé à la Cour pénale internationale? Non, c'est seulement l'Afrique, vous allez voir. On a interpellé Jean-Pierre Bemba, on a interpellé Omar El Béchir, on a interpellé tel. Non, non. La Cour pénale devait être conçue comme une institution internationale d'appui à la démocratie, à la bonne gouvernance de la justice. Donc je proposerai que dans les jours à venir, dans les années qui viennent, que la Cour constitutionnelle soit considérée, la Cour pénale internationale soit considérée comme une institution d'appui de la démocratie, accessible à une justice équitable dans le monde, et non une justice sectorielle africaine, non. La Cour pénale doit voir les infractions qui sont commises en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique, ainsi qu'en Afrique. Voilà un pays. Ça ne doit pas être une cour commerciale à la merci des Occidentaux. Non. Voilà mon point de vue, messieurs les journalistes. Donc j'insiste sur une Cour pénale internationale d'appui à la démocratie mondiale et de la bonne gouvernance, d'une justice équitable. François Kundilang depuis Libo pour Radio Kapi.
Merci beaucoup François. Laurent Mignon, vous êtes à Kananga. Merci de nous avoir rejoint. Bonjour, on vous écoute.
Bonjour la Radio Kapi. Je pense que aujourd'hui faire le bilan de la CPI, oui, c'est très bien. Mais si nous allons vraiment fouiller dans la profondeur, je pense que la CPI a été au service des Africains. Même si on dit que non, ils ont rendu les 10 arrêts, tout ça, mais c'est en défaveur des Africains. Vous vous rappellerez l'histoire de soldats américains qui avaient tué, ils pensent, le civil en Afghanistan. Bonsoir. Bon, la procureure partante, Madame Fatou Bensouda, avait saisi le bureau de la CPI pour réprimer le crime qu'avaient commis les soldats américains. Mais l'honnête temps avait dit que non. Au cas où la procureure va initier de telles démarches, la dame sera sanctionnée économiquement. Je pense que la CPI, même dans ce statut des Roms là, donc vraiment c'est une cour qui a deux poids, deux mesures. Donc elle a été au service des Africains, donc elle n'a pas aidé les Africains, elle a seulement aidé les Européens, les Américains, qui en tirent profit. Mais pour nous les Africains, nous affirmons bien que la CPI n'a pas joué bien son rôle. Vous vous rappelez l'histoire de Bosco Ntaganda, de Jean-Pierre Bemba et tant d'autres. C'est pourquoi chez nous, en droit international, on dit que non, le droit international public, c'est un droit des Européens. C'est un droit de dépôt des mesures. Il y a toujours des injustices, il y a toujours des inégalités. Donc, la CPI, c'est une cour impartiale. Merci beaucoup, bonne journée.
Merci beaucoup Laurent Mignon. Mais rappelons quand même que les Africains, ils se plaignent des crimes qui sont commis sur les sols africains, mais en même temps, ils sont aussi mécontents que les Africains soient jugés par la Cour pénale internationale. Cela veut dire on fait une chose et son contraire. On se plaint que des dirigeants africains créent des guerres, ils provoquent de l'instabilité, ce qui conduit à des crimes graves, mais en même temps qu'on veut juger ces Africains qui commettent des crimes graves, on estime aussi que la Cour, elle fait souffrir les Africains. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on devra évoluer dans la réclamation de la justice, mais aussi dans l'acceptation des procédures et de la même justice. Alors, Patrick Tchibouy, on va conclure cet échange. Il y a un auditeur en début d'émission qui est revenu sur le quatrième point de sa proposition. C'était le travail de sensibilisation, des rapprochements de la Cour auprès de la population pour qu'elle comprenne aussi, même si on le fait, même si on revient, mais quand même que ce travail soit fait pour permettre à la population de mieux cerner le travail de la Cour pénale internationale. Et ça va vous permettre aussi pour conclure cet échange.
Merci beaucoup pour cette opportunité. Et ce que nous faisons avec vous, cette possibilité que Radio Capi nous donne, fait partie de cette stratégie de sensibilisation. Et un très grand merci à Radio Capi ces opportunités que vous nous donnez régulièrement pour pouvoir nous exprimer, expliquer le fonctionnement de la Cour pénale internationale. C'est important. C'est la raison pour laquelle nous n'hésitons pas à pouvoir répondre à vos invitations, à pouvoir échanger avec les auditeurs pour les entendre, pour les écouter et pour éclaircir un peu, donner des éclaircissements sur la manière dont fonctionne la Cour pénale internationale. La sensibilisation, l'information publique, elle est importante. Et nous avons toute une section au niveau de la Cour qui travaille sur ça. Et moi, je travaille au sein de l'unité de la sensibilisation. Mmh. Et c'est quelque chose auquel la Cour tient énormément pour expliquer justement et rendre transparent son mandat, pas simplement auprès de la population générale, mais également auprès de communautés affectées. Et peut-être, comme on va vers la fin de l'émission, j'aimerais vraiment rassurer les auditeurs sur le caractère indépendant de la Cour pénale internationale. C'est une institution qui est totalement indépendante des États. Vous avez même vu à un certain moment, certains États ont eu des réactions assez fortes contre la Cour pénale internationale. C'est pour vous montrer son caractère indépendant. La Cour pénale internationale est indépendante sur le plan du politique, indépendante des États. Elle est indépendante même sur le plan financier. C'est pas parce qu'il y a des États qui contribuent que la Cour serait dépendante de ces États. Elle est une institution judiciaire et son mandat est un mandat purement judiciaire. Et dans le cadre de ce mandat, elle demeure indépendante. C'est une juridiction qui n'a pas de parti pris et qui rend sa décision en faveur de la justice. Et dans le travail de la Cour pénale internationale, il faut retenir qu'il y a beaucoup de victimes africaines qui aujourd'hui bénéficient des réparations prononcées par la Cour, pour lesquelles des accusés ont été reconnus coupables, des victimes africaines et des victimes également congolaises, parce que je vous ai dit que nous sommes en phase de réparation.
Oui.
Donc vous avez des victimes congolaises aujourd'hui qui sont bénéficiaires des décisions de réparation rendues par les juges de la Cour pénale internationale. Et aujourd'hui, ces réparations sont mises en œuvre par le Fonds Profit des Victimes, qui est une institution qui a été créée, mise en place par la Cour pénale internationale. Donc en ce moment, si nous célébrons les 25 ans, ce dialogue, cet échange était important avec les populations, avec les auditeurs,
merci,
pour comprendre leurs attentes. Et la Cour a besoin de votre soutien parce qu'en fait, ce qu'elle fait, elle le fait pour lutter contre l'impunité, mais elle a besoin de soutien des uns des autres et elle demeure une juridiction indépendante, complémentaire des juridictions pénales nationales.
Merci beaucoup Patrick Tchibouy, responsable des communications à la Cour pénale internationale ici à Kinshasa. Merci d'avoir accepté notre invitation et de discuter avec les auditeurs autour de cette question.
C'est moi qui vous remercie.
Merci également à vous tous auditeurs. Vous avez été nombreux à vouloir commenter ce sujet. Le débat, comme d'habitude, se poursuit sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Mais vous pouvez réécouter cette émission sur www.radiocapi.net. Merci à Jean-Claude Siala qui a assuré la mise en onde de ce magazine, qui est Pierrot et la Mengi. J'ai eu le réel plaisir de vous présenter. On se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux Auditeurs. Merci de votre fidélité à la fréquence de la paix. Au revoir.